Voilà, un grand merci à nos frères et sœurs pour ce moment de chant, d'adoration, de recueillement, et aussi de nous rappeler qu'il y a une destination finale que notre Dieu nous prépare à ceux et celles sur qui son nom est invoqué. Je vous invite maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec l'épître, la première épître de Pierre, au chapitre 3, et nous lirons ensemble les 7 premiers versets. La première épître de Pierre, chapitre 3, les 7 premiers versets. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas encore à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillement tressé, bijoux aux mors, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur confiance, leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Elle était par exemple le cas de Sarah, dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Jusqu'ici, notre lecture. Ces paroles de l'apôtre Pierre que nous venons dire peuvent scandaliser l'auditeur ou le lecteur de notre temps moderne aujourd'hui. L'une des phrases, par exemple, la première phrase, « Femmes, soyez soumises chacune à son mari », peut faire encore sauter au plafond de nos jours. Vous savez, je ne l'ai pas choisi au hasard, je précise, j'ai fait une série de prédications sur l'épître de Pierre. L'avantage, c'est que quand vous arrivez à un texte, parfois qui évoque des questions sensibles, on ne peut pas passer outre. Il faut que nous soyons capables de prêcher, de parler de la parole de Dieu et de la recevoir dans sa totalité. C'est juste pour rassurer ceux qui risqueraient de sauter au plafond en entendant cette première phrase, mais je prendrai quand même le temps d'essayer d'expliquer comment cela... Pierre nous invite à le comprendre. Il me semble, en effet, qu'il nous faut faire très attention pour ne pas prendre ce passage uniquement, séparément, de tout ce que Pierre a écrit précédemment, c'est-à-dire avant ce passage, et de ce qu'il va écrire par la suite. À vrai dire, ce texte fait partie de l'ensemble d'un paragraphe qui commence au chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 12, où Pierre adresse et des exhortations à des chrétiens pour avoir une belle conduite dans la société. Et c'est ce qu'il dit dès le début de ce grand paragraphe, c'est-à-dire au verset 12 du chapitre 2, « Ayez une belle conduite parmi les païens ». Cette belle conduite doit se manifester d'une manière concrète dans nos relations avec ceux qui nous entourent, ceux qui exercent de l'autorité au sein de la société, tant que cela ne nous oblige pas, bien entendu, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Autrement, il y a un autre principe qui doit être considéré, c'est celui d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein. C'est le principe que l'apôtre Pierre avait lui-même dit face aux autorités juives de Jérusalem. C'est dans Actes 5, au verset 29. Et il nous faut aussi avoir une belle conduite avec nos responsables professionnels, qu'ils soient durs ou doux, comme nous l'avons vu hier lors de notre étude avec les jeunes à la réunion de groupe de jeunes. Et cette exhortation, femmes, soyez soumises à votre mari, avant cela donc, et donc ce troisième chapitre, dont nous venons de lire justement, entre autres, cette fameuse phrase, Pierre poursuit son exhortation en nous invitant maintenant à avoir une belle conduite au sein du couple. L'intérieur, donc, avec le conjoint, notre conjoint, c'est-à-dire le plus proche de tous les prochains que Dieu place sur notre chemin. Et il termine, toujours ce paragraphe, avec ce thème, en invitant à avoir une belle conduite, même avec les gens qui nous persécutent, qui nous font du mal. Donc, l'ensemble de toutes ces exhortations nous invite à lire le passage dans son contexte global, pour ne pas le faire sortir de son texte, faire sortir une phrase ici ou là, et lui faire dire le contraire, justement, de ce que ce passage veut nous enseigner. En effet, ce passage nous invite à développer une belle conduite au sein du couple et bien sûr au sein de la famille plus largement, et non pas à utiliser notre position, aussi bien dans la famille que dans le couple, pour faire souffrir l'autre sont les autres membres de la famille. Pierre adresse deux exhortations en vue d'une belle conduite, aussi bien aux épouses que aux époux dans ce passage. Pierre consacre justement les 6 premiers versets de ce passage pour exhorter les sœurs, les épouses, et puis le dernier verset pour les époux. Nous pourrions demander pourquoi cette disparité, pourquoi cette grande partie réservée à l'exhortation à des sœurs. Est-ce que les sœurs avaient plus besoin que des frères en la matière? Je ne pense pas. C'est simplement, à vrai dire, cette différence s'explique par le fait qu'il y avait plus de femmes, de chrétiens dans ces églises d'Asie mineure auxquelles Pierre s'adressait initialement, des sœurs qui se sont converties, des femmes converties, mais dont le mari n'est pas converti. Donc elles étaient vraiment en grand nombre, et c'est cela qui explique que Pierre ait pris plus de temps. Ce n'est pas parce que les frères étaient plus efficaces ou plus obéissants. Donc c'est cette différence s'explique par le nombre de sœurs dont le mari n'est pas chrétien. Et cela est confirmé d'ailleurs par l'exhortation que Pierre donne dès le verset 1 en invitant ses sœurs à avoir une belle conduite pour que justement leur conjoint non chrétien puisse parvenir à la connaissance du Seigneur, parvenir à la foi. Quelles sont ces exhortations donc que Pierre nous adresse ici? Je vous propose 3 exhortations d'abord pour les épouses et 3 autres pour les époux. La première, en effet, est adressée à nos sœurs, des épouses chrétiennes, en leur disant de se soumettre à leur époux. Soyez soumises à votre mari, cette expression a été à l'origine de beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances dans des foyers chrétiens. Et à cause d'une mauvaise compréhension, certains maris se sont servis de cette parole pour avoir des attitudes pas vraiment dignes de l'Évangile et dans certains cas même abominables vis-à-vis bien sûr de leur épouse. Que cette exhortation initialement nous invite à avoir une belle conduite et non pas à terroriser ou à faire du mal surtout à son conjoint. Nous devons faire, il me semble, attention à notre manière dont nous lisons certains passages, notamment des passages sensibles comme celui-ci, et ne pas tirer très rapidement des conclusions, très rapidement, d'une manière hâtive. Et en plus, il nous arrive souvent, il me semble, lorsqu'on considère cette question, il nous arrive souvent d'ajouter des problématiques relatives à notre contexte d'aujourd'hui, mais qui peuvent être extrêmement sensibles, alors que le texte biblique ne les aborde pas du tout. En tout cas, ne les aborde pas de la même manière, en tout cas sous le même angle que celui par lequel nous l'abordons aujourd'hui, en tout cas, et cette problématique se pose dans notre société moderne. Le verbe « se soumettre », en effet, a une mauvaise connotation. Il est compris souvent dans un sens négatif, parce que on l'associe d'une manière ou d'une autre à un rapport de force. On comprend souvent qu'une personne est soumise à l'autre parce que celle-ci l'a vaincue ou l'a obligée à lui obéir. Ou encore, comme c'était le cas dans le monde grec du Nouveau Testament, enfin au premier siècle, une personne soumise est une personne qui renonce à tous ses droits et à toute volonté. Or, dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, et en l'occurrence dans ce texte de Pierre, mais pas seulement, nous sommes loin de nous retrouver, nous sommes loin de ce cas de figure. Il est question d'une soumission volontaire, choisie, d'une soumission volontaire choisi pour un objectif bien précis. L'épouse chrétienne est invitée ici à prendre sa place dans le cadre que Dieu a placé et à accepter sa responsabilité à l'égard de son mari, d'un mari auquel elle reconnaît aussi un rôle spécifique accordé par Dieu créateur. Il faut préciser que dans le cadre que Dieu a voulu pour l'humanité, l'épouse chrétienne ne devient pas inférieure en choisissant de cet ordre, en choisissant de rentrer pleinement dans ce cadre. Bien au contraire, elle accomplit pleinement sa passion, elle accomplit pleinement son appel dans le respect de ce cadre que Dieu a posé dès le début de la création, Genèse 1 et 2. Si nous sommes loin de toute vision un peu machiste qui voudrait placer la femme à un rang inférieur ou accorder à l'homme une supériorité quelconque dans la relation conjugale. Le fait d'occuper des responsabilités particulières ne rend pas la personne supérieure ni inférieure à l'autre. L'un des enseignements qui ressort très clairement dans le livre de la Genèse et précisément de la manière dont Dieu a procédé pour créer, faire la femme. Et l'un des enseignements qui ressort, c'est justement cette égalité en dignité entre l'homme et la femme vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte, la prise à l'homme. C'est Genèse 2, le verset 22. Et je ne résisterai pas à vous lire un commentaire qui est de ce verset. Vous pouvez trouver, pour ceux qui ont les Bibles de Semeur, les Bibles d'études, et il y a un commentaire dans ce qui était reporté dans ces notes aussi, qui dit la chose suivante: Dieu n'a pas créé la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, et pris de son cœur pour qu'il la chérisse. Voilà un bon commentaire qui rend compte bien de cette manière, de la manière dont Dieu a procédé pour créer la femme. Les différentes positions ou places occupées dans un cadre ou une structure posée par Dieu ne rend pas les personnes supérieures ou inférieures aux autres, comme je viens de le mentionner. Prenons l'exemple de Jésus. Le Nouveau Testament emploie exactement le même verbe pour Jésus en disant que Jésus s'est soumis. Jésus est soumis à ses parents. C'est dans Luc, chapitre 2, verset 51. Mais cela ne veut pas dire que Jésus est devenu inférieur à ses parents. Jésus avait occupé la place qui lui revenait dans le cadre, dans la structure que Dieu avait posée dès la création. Enfin, pour le couple, hein, pour mettre la famille et laisser l'entendre. Si donc c'est juste le fait de dire que Jésus est soumis à ses parents, c'est juste une manière de dire que Jésus occupait sa place, cette place qui lui revenait au sein de sa famille. C'est aussi la même chose dans le rapport de Jésus avec son Père Céleste cette fois-ci. Ce qui est dit de Jésus par rapport à son Père Céleste. À plusieurs reprises, le Nouveau Testament dit clairement que Jésus est soumis à son Père. L'un des textes les plus clairs à ce sujet, c'est sous la plume de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28, il dit « Le Fils de Dieu lui-même se soumettra, en parlant des choses à venir, du jour du jugement, la résurrection finale, se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. » Il dit très clairement que Jésus se soumettra à son Père qui a remis toutes choses entre ses mains. Et pourtant, le même apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 6, que Christ est d'égalité avec Dieu. Cela laisse entendre que pour l'apôtre Paul, être soumis à quelqu'un n'implique pas une infériorité quelconque, une supériorité quelconque, mais simplement occuper la place qui lui revient dans ce cadre que Dieu a posé, ou bien dans ce plan, comme faisait allusion tout à l'heure Hélène, dans ce plan que Dieu a dessiné. Donc, nous ne pouvons pas déduire de fait que les sœurs sont appelées à se soumettre à leur époux, qu'elles soient inférieures à leur époux. La soumission n'implique aucune infériorité de la personne soumise. Cela doit conduire, me semble-t-il, nos chères sœurs, mariées, épouses, à ne pas avoir peur de prendre joyeusement leur place au sein du couple. Bien au contraire, c'est la seule manière même, à mon sens, de jouir pleinement de ses projets de bonheur et non de malheur que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous, dont les sœurs donc. Pierre évoque une raison pour laquelle il exhorte les sœurs mariées à se soumettre à leur époux, pour conduire à la foi leur époux. Avec une attitude respectueuse et pure de la femme peut préparer son époux à la réception de la parole de Dieu, à la foi en Jésus-Christ. Et cette préparation peut se faire sans parole, verset 1, sans être obligé toujours de lui parler et parler et parler et parler encore de l'Évangile, parce que ça risque de produire l'effet inverse. Mais nous pourrions nous poser la question de savoir comment articuler ce que Pierre est en train de dire ici à nous, aux sœurs mariées, d'avoir de prêcher en quelque sorte, de parler de l'Évangile sans prédication, alors que l'apôtre Paul nous dit la nécessité de la prédication de l'Évangile pour la foi. C'est dans chapitre 10 de Romains, le verset 17. Comment croiront-ils ces personnes ne prêchent ? Ce que Pierre évoque ici semble, avec l'expression « sans parole », c'est le fait de dire que notre attitude vis-à-vis des membres de la famille, notamment vis-à-vis du conjoint en l'occurrence, peut jouer un rôle essentiel, voire déterminant, dans le cheminement de notre conjoint ou d'un autre membre de la famille. Si notre attitude est bonne, cela va certainement encourager notre conjoint, les autres membres de la famille, à se questionner, à se poser des questions et à s'approcher davantage de l'Évangile, de Christ, de la personne dont nous réclamons. Mais si notre attitude est mauvaise, elle est repoussante, il est tout à fait normal que notre conjoint ou les membres de notre famille soient repoussés, se soient éloignés, ne s'approchent pas de l'Évangile, à moins que la grâce de Dieu se manifeste malgré nous, ce qui se passe souvent à vrai dire. Cette phrase de préparation me semble est importante et elle n'est pas à négliger dans nos relations avec nos proches, en particulier les conjoints non chrétiens, mais pas seulement, avec tous les membres de notre famille, si on veut qu'ils s'approchent du Seigneur. Souvent, là où nous sommes connus, là où les gens nous connaissent, les gens entendent davantage ce que nous faisons par notre attitude, ce que nous sommes, et pas vraiment ce que nous disons. C'est la cohérence de nos choix, de nos attitudes, de notre témoignage qui fera réagir les membres de nos familles qui ne sont pas encore Seigneur. Les beaux discours, c'est bien, mais ce sont surtout les actes qui parlent davantage. Que le Seigneur simplement nous donne sa grâce pour que chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous soyons vraiment des témoins fidèles du Seigneur et que nous soyons en bénédiction pour notre conjoint et au-delà pour la famille et bien aussi pour toute la société. Une dernière chose encore sur cette question, cette fameuse exhortation sur la soumission. Je ne prendrai pas autant de temps sur toutes les autres exhortations, mais comme c'est nécessaire parce qu'elle risque d'être mal comprise, donc je me permets de prendre un peu plus de temps sur cette exhortation. Encore une dernière chose sur cette exhortation de la soumission. Il faut noter que l'apôtre Pierre ne s'adresse pas à n'importe quelle femme, dans la communauté, mais aux épouses. Donc, Pierre ne demande pas à toutes les femmes de la communauté, à toutes les sœurs de la communauté, de se soumettre à tous les frères de la communauté. Pierre demande à des épouses de se soumettre à leur propre mari. Il y a, vous savez, ce petit mot « propre ». Il est aussi dans l'original qui veut dire vraiment chacun pour son propre conjoint. Dans ce cas-là, l'apôtre Pierre, cela doit nous éviter certaines expressions comme sortir certaines expressions dans des moments un peu peut-être qui ne sont pas complètement adéquats. Donc c'est une recommandation faite à des épouses à l'égard de leur propre époux. Et dans ce cas-là, donc, il y a une autre question qui va se poser, c'est de dire, donc Pierre ici finalement s'adresse uniquement aux mariés. Donc les célibataires ne peuvent pas être concernés. En effet, la première chose qu'il faut dire, bon bien sûr on a parlé des célibataires avant et après, ici Pierre s'adresse initialement pour les mariés. Mais il me semble qu'il y a deux raisons pour lesquelles même les célibataires peuvent se sentir directement concernés par ces paroles. La première, c'est le fait que personne n'est marié, vous savez. Nous avons tous été, en tout cas les mariés étaient célibataires, et il y a toujours une période de célibat, et cette période de célibat donc peut servir aussi de préparation pour éventuellement un changement de statut dans l'avenir. Et de ce fait, autant dès à présent déjà recevoir toutes les instructions nécessaires pour être prêt le jour du mariage. Mais il faut signaler ici, je dois faire et je tiens à faire une parenthèse, il faut signaler aussi que certains ont choisi le célibat. Vous savez, le célibat, ce n'est pas une tare, mais bien au contraire, c'est considéré comme un don de grâce par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7. Et Jésus même dit, certains ont choisi d'être célibataires pour le royaume de Dieu, les eunuques par exemple. Donc il y a certains qui ont fait ce choix, et ça, il faut le respecter. Ou bien tout simplement, il y a d'autres pour qui peut-être célibat peut être subi. Nous vivons dans une société où, en effet, il arrive ici ou là des sœurs, à des frères, de subir le célibat. Et dans ce cas de figure, comment donc ils peuvent se sentir concernés? Puisque la première, finalement, raison de s'intéresser à ce texte ne tient plus, donc n'a plus lieu d'être. Et c'est là que j'évoque une deuxième raison qui doit nous pousser, même en tant que célibataires, à nous intéresser à ce passage de Pierre adressé pour les conjoints. C'est le fait que Pierre, puisqu'il est ce que dit Pierre, les conjoints, peut être dit aussi d'une manière forte de tous les membres de la famille. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'associe aussi les autres membres de la famille à ce que je disais. Et dans ce sens, que nous soyons célibataires ou mariés, avoir une belle conduite auprès des membres de notre famille peut préparer le terrain pour l'annonce de l'évangile, pour que les membres de la famille se tournent vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons tous, me semble-t-il, nous sentir concernés par l'enseignement de l'apôtre Pierre dans ce passage, bien qu'il soit adressé initialement aux mariés. La deuxième exhortation que Pierre adresse aux sœurs au verset 4, c'est de chercher la beauté intérieure, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Que faut-il favoriser dans notre vie chrétienne? Les apparences, les choses extérieures ou bien la richesse intérieure, un cœur qui plaît à Dieu? En effet, ce sont les apparences qui frappent souvent le cœur de l'homme ou le regard de l'être humain. Mais le Seigneur regarde les cœurs. C'est ce que Dieu a bien voulu faire comprendre à son prophète Samuel lorsque celui-ci est venu pour oindre l'un des fils de Jissé pour succéder au roi Salomon. Le Seigneur lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. C'est dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. C'est aussi cet enseignement que Jésus laisse à ses disciples. L'être humain a besoin d'être transformé complètement intérieurement, d'être transformé. Et il n'a pas besoin simplement qu'il ait une robe religieuse, etc., extérieure. Ça ne changera absolument rien. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. C'est le changement intérieur qui est mis en valeur aussi dans l'enseignement de Jésus. L'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Tite, chapitre 3, les versets 11 et 12. C'est à cette vie donc sensée, juste et pieuse que le Seigneur nous appelle. Une vie transformée par le renouvellement de notre intelligence grâce à la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie, comme le soulignait ce matin Hélène, grâce à l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser modeler par le monde présent, comme l'apôtre Paul nous y encourage en Romains 12. Voilà pourquoi nous devons aussi peser toutes choses pour mettre notre énergie dans les choses qui plaisent au Seigneur. Mais une fois que nous avons dit cela, nous devons répondre maintenant à une autre question, peut-être un peu sensible ici ou là. Est-ce que Pierre est en train de dire qu'il ne faut pas bien prendre soin de soi, de vous, notamment ici aux sœurs? Pierre est-il en train de dire aux sœurs de se contenter d'un service minimum en matière d'habillement, etc., d'élégance? Vous savez, les pères de l'Église ont été très 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 durs contre la toilette féminine, résumée justement par ces femmes romaines évoquées au verset 3, la coiffure, les vêtements et les bijoux. Mais il me semble que les versets 3 et les versets 4 sont construits pour être lus et compris ensemble, même si chacun de ces versets peut avoir son sens séparément, peut être lu et compris indépendamment de l'autre. Il est certain que Pierre ne dit pas que nous devons nous laisser aller et ne pas prendre soin de nous, surtout pour les sœurs. Cela serait tout simplement contraire à l'exhortation qu'il vient juste d'adresser auparavant. Si les sœurs chrétiennes, les femmes chrétiennes, si les sœurs chrétiennes veulent gagner leur époux non chrétien à la fois, elles ont intérêt à bien prendre soin d'elles. Autrement, elles seraient tout simplement considérées comme des femmes négligentes et ça ne donnerait pas du tout envie de s'approcher d'une telle foi et d'une telle croyance. Au contraire, par cette négligence, elles repousseraient leur époux non chrétien. En somme, ce que Pierre me semble demande ici, c'est bien entendu de ne pas nous tromper de priorité, de cultiver les valeurs sûres, durables, comme un esprit doux, un esprit paisible. Et en même temps, il n'interdit pas du tout de porter des bijoux, de bien se coiffer, ou encore d'avoir des vêtements propres, élégants, et ainsi de suite. Que ce soit simplement raisonnable. Donc faisons, me semble-t-il, attention pour ne pas, là aussi, réduire le message de Pierre dans ce passage à la toilette des femmes, ou bien au contraire de considérer la deuxième partie du verset qui porte sur les valeurs intérieures que Dieu qui plaise au Seigneur. Enfin, la troisième exhortation de l'apôtre Pierre pour les sœurs, c'est de suivre l'exemple des femmes saintes d'autrefois. Ce qui doit être pris en exemple chez ces femmes, c'est leur espérance en Dieu. Verset 5. Les femmes auxquelles fait allusion ici l'apôtre Pierre, en fait, sont les quatre femmes des patriarches. Certains ont appelé en tout cas les matriarches. Et ces quatre femmes des patriarches qui ont joué un rôle important dans la lignée du peuple de Dieu. Sarah, l'épouse d'Abraham, Rebecca, épouse d'Isaac, et Léa et Rachel, épouse de Jacob. Ces femmes, en effet, étaient connues pour leur espérance, leur persévérance, leur espérance en Dieu, même face à des situations très, très, très difficiles. L'une des épreuves communes à trois d'entre elles, Sarah, Rebecca et Rachel, c'est la difficulté d'avoir un enfant dans un premier temps. C'est uniquement à l'âge de 91 ans que Sarah, épouse d'Abraham, a eu la joie de devenir une maman en enfantant Isaac. Rebecca, la femme d'Isaac, a passé 20 premières années de son mariage sans pouvoir avoir un enfant. Il a fallu l'intercession d'Isaac pour que Rebecca devienne une mère et donne naissance à deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Rachel aussi a dû faire face à la stérilité dans un premier temps et voir sa sœur Léa donner beaucoup d'enfants à Jacob. Elles ont beaucoup souffert. Quant à Léa, la deuxième épouse donc de Jacob, sa souffrance, enfin la première épouse dans l'ordre chronologique, sa souffrance est de voir, initiale, est de voir son mari préférer sa sœur cadette, Rachel, qui était plus séduite, précise le texte biblique. C'est dans Genèse 29. Genèse 29, 28, 30, tout cela. Dans toutes ces souffrances, ces femmes ont su garder leur espérance en Dieu, ont su s'attendre à Dieu, à lui seul et à son intervention. Pierre cite ici uniquement Sarah, la première qui a été considérée comme la mère des Israélites. Il souligne sa relation avec son mari. Il dit dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est une allusion à Genèse 18, verset 12. Mais il faut juste préciser ici que le nom Seigneur n'est pas à comprendre dans le sens de maître. Car seul le Seigneur Jésus est maître, à vrai dire, que le croyant doit appeler maître. Mais c'est à comprendre dans le sens de monsieur, comme ça a été utilisé fréquemment au premier siècle, même dans le Nouveau Testament. Mais monsieur qui exprime le respect un respect qu'on éprouve pour la personne à laquelle nous nous adressons. Donc voilà, en parenthèse, inutile, chers frères, d'exiger de vos épouses, de votre épouse, de vous appeler Seigneur. Malgré donc les moments difficiles et parfois complètement incompréhensibles, Sarah a été respectueuse justement de son mari, Abraham. Mais nous pourrions nous dire qu'Abraham a été un homme de foi, alors que les sœurs auxquelles Pierre s'adresse ici, leurs conjoints étaient sans des non-chrétiens, des non-croyants. En effet, il y a cette différence-là. Néanmoins, le respect que les sœurs doivent avoir à l'égard de leur époux ne dépend pas de l'attitude de l'époux. En tous les cas, ne dépend pas de l'attitude de l'époux. En tous les cas, ce n'est pas cela que Pierre met en valeur. Mais elle dépend de la confiance et l'espérance que les épouses sont invitées à placer en Dieu. Et dans ce cas-là, même si le conjoint n'est pas croyant, les sœurs doivent lui manifester respect et prendre la place qui leur revient dans le couple. En même temps, le fait d'avoir un époux chrétien n'est pas une assurance tout risque. Et ça, ceux qui sont mariés le savent, et ceux qui ne sont pas encore mariés, peut-être si un jour se marient, ils le sauront. Le fait d'avoir, certes, il faut espérer qu'avoir un conjoint chrétien, le mari chrétien, que le mari va s'efforcer à prendre Christ pour exemple, comme d'ailleurs l'apôtre Paul nous encourage dans Éphésiens 5. C'est-à-dire dans sa relation, Christ, mais Paul, il met un parallèle entre la relation de Jésus avec l'Église et la relation du mari avec son épouse. Donc on peut espérer, c'est à cela que nous sommes invités, autant qu'époux chrétiens, et si nous ne le faisons pas, au moment de se repentir, il y aura un temps de repentance et de revenir au Seigneur, c'est à cela que nous devons tendre. Donc ce n'est pas normal lorsque nous ne nous imitons pas cela. Néanmoins, il me semble que nous sommes forcés de constater qu'il y a même des souffrances, parfois graves, très graves, même lorsque l'époux est chrétien. Ce que Pierre met en valeur, ce n'est pas la gentillesse ou la compréhension de l'époux pour encourager les sœurs à prendre leur place dans le couple. Pour les époux, l'apôtre Pierre, il leur adresse d'autres paroles aussi fortes que celles qu'il adresse pour les sœurs. Mais ce qu'il met en valeur, c'est la confiance que les sœurs, les épouses, doivent placer en Dieu qui opère tout en tous. Cette confiance en Dieu tout-puissant conduit à une vie sans crainte, justement, y compris vis-à-vis de l'époux. Et elle conduit aussi à une vie consacrée au bien indépendamment de l'attitude des autres, en l'occurrence de son conjoint. Voilà donc pourquoi les sœurs sont appelées à suivre l'exemple de Sarah et continuer à être des femmes de foi, de bons exemples au sein du couple, dans la famille et même au-delà, dans la société. Telles sont donc les exhortations que Pierre laisse dans ce passage aux sœurs. Il les invite à prendre joyeusement leur place dans le cadre que Dieu a placé dans le couple et sans pour autant devenir ni inférieures ni d'ailleurs supérieures à leur mari. De même, elles sont encouragées à chercher la beauté intérieure sans pour autant négliger le témoignage qu'elles doivent donner par leur apparence. Et enfin, elles sont invitées à suivre les bons exemples, l'exemple des femmes saintes d'autrefois qui ont su placer leur confiance en Dieu. Que le Seigneur donne sa grâce, cette grâce qui est plus que suffisante pour tout cela. Nous avons pris beaucoup de temps pour discuter de ces exhortations adressées aux sœurs. Nous avons fait que respecter, à vrai dire, le texte biblique aussi qui donne plus de place à ces exhortations que à celles adressées aux hommes. Mais en même temps, il faut noter que ces explications nous concernent tous, parce que, aussi bien les sœurs que nous concernent tous, parce que souvent lorsqu'il y a des abus, souvent les abus, en tout cas venant des maris, viennent de la non-compréhension de certains textes, comme par exemple celui-ci de l'apôtre Pierre. Et du coup, finalement, c'est bien aussi que les époux aussi soient éclairés, à mon sens, sur cette question. Maintenant, sur la base du dernier verset, j'aimerais vous adresser aussi aux époux quelques exhortations, sinon ce serait trop injuste quand même. Et la première, c'est « Marie, vivez chacun avec votre femme. Il est question de veiller ici à ce que les choix faits favorisent par le mari, par le couple, favorisent cette vie commune avec son épouse. Donc, fuir tout ce qui peut être ou tout ce qui peut nous écarter d'une vie qui s'inscrit dans une relation exclusive avec son conjoint et dans une relation durable. Nous savons que l'une des difficultés rencontrées par les couples de nos jours touche à l'infidélité, à la vie, c'est-à-dire à la vie commune. Il n'y a pas que les maris, bien entendu, qui sont concernés par cette difficulté-là, mais il faut reconnaître que les maris sont plus touchés que les épouses, que les femmes. Si pour les épouses, peut-être c'est difficile d'entendre la soumission c'est la difficulté de la soumission, oui, qui est soulignée, peut-être pour les maris, c'est celle d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire de l'aimer d'un amour exclusif, total, qui ne laisse aucune place pour une concurrente éventuelle. Telle est en tous les cas la première exhortation que Pierre adresse ici pour les maris. La deuxième exhortation touche au discernement. Les maris doivent comprendre que leur épouse est d'une nature plus délicate, plus sensible. Disons-le, peut-être plus faible, mais j'excrée le terme faible. Dire que les femmes sont d'une nature plus faible peut faire sauter une fois de plus au plafond. Vous savez, ce passage, il a rassemblé toutes les questions sensibles. Je peux pas échapper. Donc, dire que les femmes sont d'une nature faible peut faire sauter aussi au plafond certains de nos contemporains. Mais il me semble qu'il faut faire attention à la manière dont nous comprenons une fois de plus cela. D'abord, il faut souligner que tant de l'apôtre Pierre n'aborde pas ici la problématique. Notre problématique contemporaine sur la différence, par exemple, masculin et féminin, entre ce qui serait naturel et ce qui révélerait de culturel ou de culture, entre ce qui serait permanent de ce qui serait tout simplement occasionnel, et ainsi de suite. Ensuite, il faut souligner le contexte de l'époque. Au premier siècle, le travail était souvent un travail manuel qui nécessitait des forces musculaires. Et souvent, ce sont les hommes qui assuraient ce travail. Même si, bien sûr, il y avait des exceptions ici ou là. Et au passage, on peut souligner ça, la différence, qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme sur la question morale face au péché. Tous nous étions pécheurs, dit Paul, Romains 5. Tous nous sommes pécheurs privés de la présence de Dieu. Donc, face au péché, tous les hommes et femmes sont tous pareils. Mais il faut par contre reconnaître cette différence au niveau, la différence physique à cause du travail de l'époque exercé à l'époque. Il faut noter que, une dernière chose, que le mot faible, plus faible, pourrait vouloir dire aussi, en tout cas peut être traduit par plus sensible. Donc ça peut avoir un sens de plus sensible aussi. Donc, conscient de cette nature délicate, le mari doit faire attention à son épouse et lui exprimer tout le respect et tout l'honneur qu'il lui doit. Troisième et dernière recommandation que je retire de ce verset 16 pour les maris, c'est de respecter leurs épouses. Respecter son épouse, c'est l'écouter, c'est recevoir ce qu'elle a à donner, marcher avec elle, d'un même cœur, avec harmonie. Le Seigneur donne la vie aux épouses au même titre qu'aux époux. Cela montre, s'il faut encore une fois de plus une preuve supplémentaire, que la femme et l'homme sont égaux en dignité devant le Seigneur, qui est leur créateur. Donc si tel est le cas, qui sommes-nous donc en tant qu'époux pour lui manquer de respect et abuser d'une position de force physique, à son égard? Certes, de nos jours, il faut nuancer un petit peu le propos, une fois de plus, puisqu'il y a aussi des épouses qui savent bien régler leur compte avec leur époux. Et dans ce cas-là, peut-être, l'exhortation est adressée aussi à ces épouses. Et l'épouse doit aussi entendre une épouse qui serait tentée de régler ses comptes de cette manière-là avec son époux, est aussi exhortée à entendre cette exhortation de Pierre. Mais néanmoins, dans le contexte de l'époque, aussi bien contexte grec, gréco-romain que juif, C'est la fragilité, la faiblesse, on passe aussi quand même, la femme est connue pour les fragilités, les faiblesses qui sont les siennes. Et ce sont la fragilité, les faiblesses qui sont souvent signalées. Et dans ce contexte-là, Pierre demande tout simplement aux maris chrétiens de ne pas suivre la tendance générale de leur contexte et de ne pas abuser de leur position. Pour conclure, Pierre souligne l'importance d'avoir de bonnes relations au sein du couple pour recevoir l'exaucement dans la prière. Jésus avait déjà dit l'importance de la réconciliation avant d'apporter son offrande devant l'autel de Dieu dans le sermon sur la montagne. Si au moment de présenter l'offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Ce qui est vrai entre frères et sœurs l'est encore davantage entre conjoints. La prière dans la vie d'un couple, d'une famille, est d'une importance capitale. C'est là que nous rencontrons le Seigneur en couple, c'est là que nous rencontrons le Seigneur en famille. C'est aussi là que nous demandons, que nous recevons le pardon du Seigneur, le pardon du conjoint offensé. La prière est aussi le lieu de reconnaissance pour les projets réalisés, accordés par le Seigneur, les projets accomplis, pour les joies reçues, pour les bienfaits que Dieu ne cesse de nous accorder. Si le couple ne veut pas laisser des obstacles venir empêcher leur exaucement, l'exaucement de leur prière, de leur requête, l'apôtre Pierre nous donne ici la clé, ce qu'il doit faire, accueillir favorablement, humblement, les exhortations adressées dans son passage, aussi bien pour les sœurs que pour les frères. Autrement, la prière peut être bloquée, nous dit l'apôtre Pierre, par la situation conjugale. Et dans ce cas-là, la seule prière digne d'être formulée est celle qui conduit à la repentance, à la réconciliation, pour que le couple devienne à nouveau une cellule de prière et d'une prière harmonieuse qui monte vers le Seigneur et qui accorde à tous généreusement et avec abondance. Que le Seigneur donc nous accompagne chacun dans nos relations conjugales, familiales, mais aussi bien au-delà, d'être en bénédiction pour tous, à commencer par le conjoint, les membres de la famille, mais aussi pour tous ceux et celles que le Seigneur place sur notre chemin. Amen.